RFI, il est 6h30 à Goma, 4h30 en temps universel. Et c'est le début d'une demi-heure d'actualité africaine avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Et pour débuter, votre journal, la situation dans l'est de la RDC.
Avec un calme précaire désormais à Goma, où la vie reprend doucement ses droits malgré la présence du groupe M23, soutenu par le Rwanda et toujours farouchement dénoncé par Kinshasa. La diplomatie se mobilise de son côté, vous l'entendrez. Le ministre français des Affaires étrangères a notamment entamé hier une mini-tournée pour rencontrer les présidents du Rwanda et de la RDC. La fin de la présence militaire française au Tchad, avec une première cérémonie hier pour acter la rétrocession de la base d'Hadji Kossé. Ce matin, une seconde cérémonie est prévue sur place par la présidence tchadienne. Alerte sur une nouvelle épidémie d'Ebola en Ouganda. La fièvre hémorragique a fait un mort confirmé. Les autorités prennent des mesures et émettent des recommandations. Un journaliste en garde à vue depuis hier aux Comores, Abdou Moustoifa, correspondant de l'agence de presse Reuters, poursuivi pour désinformation. Un peu de musique avec un art vieux de plusieurs siècles et cher au Maghreb, le Maloun, chanté en dialecte et remis au goût du jour par un jeune artiste, Taha Nouri. Ce sera notre reportage du jour. Soyez les bienvenus. Alors que l'ONU s'est dit hier soir très inquiète face à des informations crédibles sur une avancée du groupe M23 vers Bukavu, au sud Kivu, toujours avec le soutien du Rwanda. Eh bien, un peu plus au nord, à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, où le groupe, qualifié de terroriste par Kinshasa, a pris position depuis le début de semaine. L'activité a repris doucement, quelques commerces ont rouvert leurs portes. Le M23 a lui tenu une conférence de presse dans un grand hôtel de la ville pour réaffirmer ses objectifs. Mais sur place, les stigmates des combats sont réels. Les hôpitaux font état de plus de 1000 blessés civils. Beaucoup de blessures par balles et par des éclats d'obus, Alexis Guilleux.
Dans les couloirs de l'hôpital Il Africa, dans le centre-ville de Goma, des hommes et des femmes sont étendus sur des lits ou des matelas, même le sol. Nathalie Siro a été blessée mardi lors des combats.
Nous étions assis à 4 personnes, en train de voir comment se déroule la guerre. Mais d'un coup, il y a une bombe qui a éclaté chez le voisin. Et nous avons été atteints par les éclats, tous. Moi, ça m'a atteint au niveau du bras et ça a fracturé l'humérus. Le papa là qui était au niveau de l'abdomen est décédé hier, malheureusement. Mais nous, nous avons survécu.
Espérance Nsimiré souffre encore depuis sa blessure lundi dans sa propre maison.
On m'a tiré dessus chez moi, dans ma maison. Mon bras a été touché et c'est pour cela qu'on me soigne. Je me sens très mal. Dans mon corps, il y a encore une balle dans ma poitrine. On m'a dit que l'hôpital n'est pas en mesure d'enlever la balle.
Le personnel soignant n'a pas été épargné par le conflit à Goma, comme en témoigne ce médecin qui a souhaité rester anonyme.
Les agents ont été touchés, de nos chauffeurs, pendant qu'ils allaient secourir, ont été victimes des tirs croisés.
L'hôpital Il Africa accueille 560 blessés. La plupart ont reçu des balles ou des éclats d'obus. 25 personnes ont succombé à leurs blessures depuis le début de la semaine.
Et pendant ce temps, les efforts diplomatiques se poursuivent pour éviter l'escalade et pour tenter de trouver une sortie de crise. Après l'EAC, la Communauté d'Afrique de l'Est, c'est aujourd'hui la SADC, la Communauté de Développement de l'Afrique australe, qui organise un sommet extraordinaire dans la capitale du Zimbabwe, Harare. La SADC qui a justement une force déployée dans l'Est de la RDC. Le chef de la diplomatie française a pour sa part entamé une mini-tournée hier, avant de rencontrer normalement aujourd'hui à Kigali le président rwandais Paul Kagame. Jean-Noël Barrot était hier à Kinshasa où il s'est entretenu pendant plus d'une heure avec le président congolais Félix Tshisekedi. Le porte-parole de la diplomatie française Christophe Lemoine sera d'ailleurs notre invité après ce journal pour évoquer la position de Paris. Mais en attendant, c'est Tina Salama, la porte-parole de la présidence congolaise, qui revient pour nous sur cette rencontre hier à Kinshasa.
Cette visite du ministre français des Affaires étrangères était attendue, que cela fait suite aux appels qu'il y a eu entre les deux chefs d'État. Le président de la République a également réitéré ses regrets après les incidents survenus à l'ambassade de France en RDC lors de la dernière manifestation du 28 janvier. Alors autre chose, c'est que, comme vous l'avez suivi lors de son adresse à la Nation, le président Félix Tshisekedi a vivement dénoncé en tout cas le silence de la communauté internationale face à ce qui se passe en RDC, mais nous restons ouverts dire, nous continuons à nous engager dans des démarches diplomatiques. Ce que nous voulons maintenant, que ce soit de la part de la France ou d'autres pays amis ou d'autres organisations internationales, régionales, sous-régionales, ce sont des actions. Et par action, nous entendons des sanctions. Nous voulons vraiment savoir en ce moment qui sont nos vrais amis, qui sont avec nous, qui défendent les droits de l'homme, qui défendent le droit humanitaire international. Alors, le temps des paroles politiquement correctes, nous pensons, nous, population congolaise, que c'est vraiment dépassé et qu'il faut maintenant des actions.
Tina Salama, la porte-parole de la présidence congolaise au micro de Pauline Azidi. La guerre, les armes qui parlent toujours au Soudan également, où l'armée régulière revendique une nouvelle avancée avec la reprise de la ville d'Oum Rawaba dans l'état du Nord Kordofan, une ville qui était aux mains des forces des paramilitaires de soutien rapide depuis mai 2023. L'armée soudanaise qui revendique donc cette avancée après avoir revendiqué déjà mercredi une avancée dans le quartier de Paris au nord de Khartoum et après avoir repris ou brisé le siège du moins autour de son quartier général la semaine dernière à Khartoum.
N'Djamena, 100.2 FM.
N'Djamena, où il est 5h36 minutes, et le Tchad qui tiendra ce matin une cérémonie d'adieu sur la base d'Hadji Kossé, une base qui a été rendue par la France hier, cérémonie en présence du président Déby, qui doit normalement prendre la parole pour marquer le départ de l'armée française du Tchad, car hier, dans cette même base, une première cérémonie était organisée pour officialiser cette rétrocession. Il n'y a donc plus de soldats français dans le pays après une présence militaire longue de 125 ans. Selon une source militaire française, les deux armées se quittent ici en bons termes, après de nombreuses années passées à combattre côte à côte. Mais aux premières loges, qu'en pensent, eux, les habitants de N'Djamena? Notre correspondante Nadia Ben Mahfoud leur a posé la question.
Je ne suis pas satisfait du départ de l'armée française. Parce que vous voyez, on peut revoir les accords. Il y a des anomalies dans les accords, datés depuis 1960. Maintenant, le départ de l'armée française, il y aura une conséquence. Parce qu'une fois que l'armée française quittera, il y aura la rébellion qui va être déclenchée et qui va fournir des informations pour l'armée tchadienne.
Moi, je suis très ravi et moi, je suis parfaitement d'accord pour le départ de l'armée française au Tchad. Nous pouvons gérer notre pays, nous avons de l'armée, nous avons des autorités. Nous, on peut gérer de notre pays sans les Français. 60 quelques années, c'est trop.
Il n'y a pas de problème entre le peuple français et tchadien. Et nous sommes des amis, nous sommes des frères, on fait ensemble, on fait tout ensemble. Mais en tant que l'armée française, quitte ou quitte, moi je suis d'accord. C'est l'indépendance. C'est maintenant qu'on a eu l'indépendance.
Voilà la parole d'habitant de N'Djamena après la rétrocession hier par l'armée française de la base d'Hadji Kossé. Une nouvelle alerte à la maladie Ebola en provenance de l'Ouganda où un cas a été détecté, confirmé en laboratoire. Quand on se souvient des ravages causés par le virus avec un pic historique entre 2013 et 2016, cette nouvelle épidémie est prise très au sérieux à Kampala. Les autorités ougandaises ont émis une série de recommandations, Guillaume Thibault.
Un dispositif d'urgence a été immédiatement déclenché par les autorités. Deux hôpitaux, celui de Kampala et de Mbale dans l'est du pays, sont donc mis en alerte pour prendre en charge tout nouveau cas suspect. Le patient, un infirmier de 32 ans, est décédé mercredi. Il est présenté comme le cas index, c'est-à-dire le premier touché par cette nouvelle épidémie d'Ebola. Toutes les personnes, 44 pour le moment, avec qui il a été en contact ces derniers jours, des membres de sa famille, des patients, des agents sanitaires, ont été placés à l'isolement et en observation pour voir si les premiers symptômes du virus Ebola apparaissent, fièvre et difficultés respiratoires notamment. Le ministère de la Santé, qui appelle tous les agents, du public comme du privé, à la plus grande vigilance, a mis en place un numéro d'appel d'urgence et indique dans son communiqué que les autorités contrôlent totalement la situation.
Les explications de Guillaume Thibault. En Centrafrique, cela fait deux semaines aujourd'hui que Clarisse et Aristide Sayo sont détenus à Bangui. La sœur et le frère du chef rebelle Armel Sayo, arrêté lui le même jour à l'aéroport de Douala, est toujours aux arrêts au Cameroun. Son frère et sa sœur avaient été conviés par le chef de la police à Bangui pour une visite de courtoisie, selon leur famille et leurs avocats. Ils ont été appréhendés à la sortie du bureau. Aucune garde à vue n'a été notifiée jusqu'à présent. Leurs avocats dénoncent une détention illégale et vont demander leur remise en liberté ce vendredi. Au Bénin, la justice condamne lourdement Olivier Bocco, un ex-proche du président Talon, ancien ministre des Sports Oswald Omeki, condamné lui à 20 ans de réclusion criminelle également pour avoir fomenté une tentative de coup d'État en septembre 2024. Le procureur avait requis 10 ans contre l'ancien ministre et l'homme d'affaires. Un mandat d'arrêt international est lancé contre le beau-frère d'Olivier Bocquot, Roch Nyeri également. Trois co-accusés ont quant à eux été acquittés dans cette affaire. Un correspondant de l'agence de presse Reuters, placé en garde à vue hier aux Comores, Abdou Moustoïfa, inquiété pour désinformation, poursuivi après la publication d'une dépêche la semaine dernière portant sur des déclarations du président Assoumani. Le syndicat national des journalistes comoriens réagit à cette arrestation et s'inquiète. Un dossier qui ravive en tout cas le débat sur la liberté de la presse dans l'archipel. À Moroni, précision d'Abdallah Mzembaba.
Tout commence avec une déclaration en Chicomori du chef de l'État sur sa succession. C'est la traduction effectuée par le journaliste Abdou Moustoïfa qui a suscité la colère des autorités. Moroni a précisé que concernant cette succession, le président Azali Assoumani ne faisait pas référence à son propre enfant, mais à un membre de sa famille politique. Selon Antoine Zidine, directeur de la communication gouvernementale auprès du secrétariat général du gouvernement, le gouvernement n'a pas porté plainte, mais c'est le ministère public qui s'est saisi du dossier. Toujours selon ce dernier, je cite, « Le procureur a ordonné son audition. La désinformation est un délit reconnu par le code pénal comorien. » Fin de citation. Le parquet, lui, n'a pas réagi à nos sollicitations. Le syndicat national des journalistes comoriens conteste cette décision, estimant que l'affaire relève du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel et non de la justice pénale. Il dénonce un acharnement et exige la libération immédiate du journaliste qui s'est rendu de lui-même à la gendarmerie hier matin où il a été placé en garde à vue après avoir été entendu. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien pour Abdou Moustoïfa se multiplient. Abdallah Mzembaba Moroni et RFI.
Les Comores, où les électeurs étaient appelés aux urnes hier dans quatre circonscriptions pour des élections législatives partielles qui faisaient suite à l'annulation de la première élection par la Cour suprême, une cour qui avait relevé des irrégularités dans ces quatre circonscriptions. RFI, 5h bientôt 42 à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez.
Afrique Matin sur RFI.